Formation biblique de disciples, cours numéro 17, le retour de Jésus. Section 1, restauration d'Israël, reconstruction du temple. Première partie, la restauration d'Israël, peuple et terre. Jérémie 32, versets 38 à 42. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même conduite, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs fils après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. Je me réjouirai à leur sujet pour leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tout ce grand malheur, de même je ferai venir sur eux tout le bien dont je parle à leur sujet. Dieu déclare qu'il fera venir sur Israël tout le bien qu'il leur a promis, juste de la même manière qu'il a fait venir des calamités sur ce peuple. Jérémie 50, versets 19 et 20. Je ferai retourner Israël vers son enclos. Il aura ses pâturages du Carmel et du Bazan, et son appétit sera comblé sur les monts d'Éphraïm et d'Engalaad. En ces jours-là, en ces temps-là, oracle de l'Éternel, on cherchera la faute d'Israël, et elle n'existera plus, le péché de Juda, et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Dieu dévoile ensuite son plan pour restaurer Israël. Les derniers mots coïncident avec la promesse citée dans Ésaïe 45, verset 25. Par l'Éternel seront justifiés et se glorifieront tous les descendants d'Israël. Pour ceux qui seront justifiés en raison de leur foi dans le Messie, il ne restera aucune trace d'iniquité ou de péché. Le dernier mot laissé pourrait bien être rendu par réservé. Dieu s'est engagé à pardonner le reste qu'il est en train de se réserver pour sa gloire. Ézéchiel 36, versets 22 à 23. Eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous vous êtes rendus. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, ce nom que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel. Oracle du Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Dieu révèle un des desseins essentiels de la restauration d'Israël, sa propre gloire. Cela veut dire que la promesse de Dieu de restaurer Israël n'est pas basée sur quoi que ce soit de bien que les Juifs aient fait, mais elle a seulement pour but de glorifier Dieu. Si Israël méritait le pardon et la préservation, les Juifs n'auraient pas besoin de la grâce de Dieu. Mais c'est seulement en recevant sa grâce qu'ils peuvent restaurer pour lui la gloire que leurs péchés lui ont dérobée. Dieu les ramènera d'abord sur leur terre, puis il commencera à les nettoyer de leurs péchés. Ézéchiel 36, versets 24 à 26. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ce processus de transformation d'un cœur de pierre en un cœur de chair a déjà commencé, et il se produit sous nos yeux. Dieu révèle que ce changement de cœur préparera Israël à recevoir l'onction du Saint-Esprit. Ézéchiel 36, versets 27 et 28. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Il n'y a aucun doute en ce qui concerne la terre que Dieu a promise aux patriarches d'Israël, cette terre qui est maintenant connue sous le nom d'Israël. Cette promesse du retour sur leur terre est une promesse qu'on doit interpréter de façon littérale et historique. Il s'agit bien du retour historique des Juifs sur leur terre, Si elle ne s'accomplit pas, la Bible n'est pas un livre fiable. Attention, la restauration physique sur la terre d'Israël n'est pas le but final. C'est seulement le prélude nécessaire au point culminant, qui lui est le but ultime de Dieu, c'est-à-dire la restauration à Dieu lui-même. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Tous les événements qui se déroulent actuellement au Moyen-Orient sont en train d'être divinement orchestrés afin de donner vie à cet objectif suprêmement important, la réconciliation d'Israël avec son Dieu. Un peu plus loin, au verset 32, Dieu rappelle au peuple juif qu'il n'a rien fait pour mériter sa restauration. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. En définitive, la race humaine tout entière ne peut rien espérer de bon si ce n'est la miséricorde et la grâce de Dieu. On ne peut les mériter, et ceci est aussi vrai pour les Juifs que pour les gentils. Cependant, en restaurant Israël, Dieu a choisi de faire une grande démonstration historique de cette vérité à toutes les nations. Par cette démonstration historique, il révèle qu'il est en train de faire entrer son second peuple, l'Église, dans la terre promise, la Jérusalem céleste, en lui faisant goûter de plus en plus puissamment une nouvelle dimension dans l'esprit de ce qu'il est et dans ce qu'il peut et veut, afin de la faire entrer dans la plénitude de sa gloire. Pour un si petit morceau de terre. Pourquoi une si minuscule bande de terre a tant d'importance dans la révélation biblique? La plupart des événements relatés dans la Bible sont centrés autour de cette terre. Les paroles de Dieu plus particulièrement partent de cette terre pour s'adresser à la terre entière. Psaume 105, verset 7. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. L'autorité de Dieu, Seigneur de la terre, s'étend à toutes les nations et à la terre entière. Psaume 105, versets 8 à 10. Il se souvient à toujours de son alliance, de sa parole pour 1000 générations, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et de son serment à Isaac. Il l'a établi comme une prescription pour Jacob, pour Israël en alliance éternelle. Ce texte extraordinaire, unique dans tous L'Écriture exprime envers Israël l'engagement solennel de Dieu à l'égard de cette terre. On y trouve des éléments très forts: alliance, promesse, commandement, serment, loi et alliance éternelle. Il n'y a pas de langage dans la Bible qui pourrait ressortir plus fortement l'engagement total de Dieu. C'est la forme la plus solennelle, la plus sacrée des déclarations divines que l'on trouve dans la Bible. Une question se pose alors à nous. Pourquoi une telle insistance? À propos de quoi Dieu est-il si intensément soucieux et prend-il la peine d'exprimer son engagement total? La réponse est donnée au verset suivant. Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Dieu attache une immense importance à ce morceau de terre, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer, parce que quelqu'un d'autre aussi attache une très grande importance à cette terre, le diable. C'est pourquoi le Moyen-Orient continue d'être le théâtre d'un immense conflit. Ces versets du psaume 105 représentent le titre de l'acte de propriété de la terre de Canaan. En s'engageant à donner cette terre, Dieu fait référence à l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi et pour Israël en alliance éternelle. Ce passage est donc clair. Mettre en doute ce passage revient à dire: Dieu, je sais que tu l'as dit, mais je ne veux pas le croire que tu veuilles vraiment dire ce que tu as dit. C'est une attitude dangereuse. Dieu donne ses promesses pour confirmer sa parole. S'ajoutant au psaume 105, il y a 46 autres passages qui affirment que Dieu s'est engagé lui-même par serment a donné la terre de Canaan à Abraham, Isaac, Jacob et leurs descendants. Le dernier passage est dans Ézéchiel 47, verset 14. Vous, Israélites, en aurez la possession l'un comme l'autre, car j'ai juré la main levée de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en héritage. La conclusion que la terre n'est plus pour Israël doit être fausse puisqu'elle fait partie aussi bien des promesses que des alliances, comme le rappelle Paul aux Romains, dans Romains 9, versets 3 à 5. Car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ainsi, en de nombreuses façons différentes, la terre est donnée éternellement à Israël. Par cette terre, Dieu reprendra possession de toute la terre lors de la venue du Messie en gloire. Trois étapes seront nécessaires avant sa venue en gloire. Premièrement, l'Aliya, le retour des Juifs des nations. Deuxièmement, la purification de la terre, avec la parenthèse des 7 années de l'Antéchrist. Et troisièmement, la venue du Messie en gloire et son règne de 1000 ans. Les premiers signes du retour à Sion. Rappel historique. 1900 avant Jésus-Christ environ. Alliance de Dieu avec Abraham. De 1800 à 1400 avant Jésus-Christ. Esclavage en Égypte. De 1350 à 1200 avant Jésus-Christ. Conquête de la terre d'Israël par les Hébreux. La période des juges qui aboutit vers 1100 à l'établissement du royaume d'Israël. En 997 avant Jésus-Christ, conquête de Jérusalem et règne de David sur tout Israël. En 586 avant Jésus-Christ, destruction du premier temple par les Babyloniens. En 70 avant Jésus-Christ, destruction du second temple par les Romains, Titus. En 135, faux messie, Bar Corba, rassemble une armée de plus d'1 million de juifs contre les Romains. Échec et massacre. L'empereur Adrien raye le nom d'Israël et nomme la terre la Palestine. Les juifs sont interdits à Jérusalem, sauf lors de Yom Kippour. Jérusalem s'appelle Aella Capitolina et érige le culte de Jupiter. En 636, après l'invasion arabe, les Juifs deviennent une minorité dans leur propre pays. 12 siècles de domination arabe, mais la présence juive ne s'effacera jamais. En 1868, les Juifs deviennent majoritaires dans la population de Jérusalem. Retour à Sion. En 1871, massacre des Juifs à Odessa. De 1880 à 1900, première vague d'immigration en Palestine composée de travailleurs agricoles qui défricheront le sol. Un rabbin russe fonde la première action politique, les Amants de Sion. En 1881, vague de pogroms en Russie tsariste à la suite de l'assassinat d'Alexandre II. Les Juifs sont interdits de séjour dans de nombreuses provinces. En 1882, première conférence sioniste dans une ville roumaine de Moldavie. En 1882 également, formation du comité d'Odessa pour encourager la colonisation de la Palestine. En 1896, Théodore Herzl publie à Vienne l'État juif. C'est le père du sionisme qui conduisit à l'État d'Israël. Il vécut de 1860 à 1904. En 1897, premier congrès sioniste à Bâle et création de l'organisation sioniste adoptant son programme. En 1898, Guillaume II rencontre Théodore Herzl. De 1900 à 1914, seconde vague d'immigration, composée d'agronomes et de paysans qui vont doter le pays d'une agriculture. En 1901, création du Fonds national juif, KKL, Keren Kayemet Leisrael, pour financer l'achat des terres aux Pachas turcs. En 1909, fondation de Tel Aviv, première ville juive. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Il existe en Palestine 43 colonies juives couvrant une superficie de 32 000 hectares, totalisant 12 000 habitants. En 1914, la Turquie déclare la guerre aux Alliés et se range aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche. En 1916, signature de l'accord Sykes-Picot, prévoyant le partage de l'Empire ottoman entre la Grande-Bretagne, la France et la Russie. La Palestine serait dirigée par une administration internationale. En 1917, déclaration Balfour. La Grande-Bretagne promet l'établissement d'un foyer national juif couvrant 33% de la Palestine, c'est-à-dire toutes les terres à l'ouest du Jourdain. En 1917, entrée du général Allenby à Jérusalem. En 1918, création de l'Université de Jérusalem. De 1918 à 1924, troisième vague d'immigration comprenant des jeunes hommes entreprenants de toute profession qui bâtiront des villes, créeront des industries, organiseront une armée et fonderont des institutions scolaires. En novembre 1918, la libération de la Palestine s'achève par la victoire de Savona, mettant fin à l'Empire ottoman. Arrivée d'un détachement français à Beyrouth ayant participé à la prise de Damas. Déclaration franco-britannique reconnaissant aux peuples du Moyen-Orient le droit à l'autodétermination, sitôt libérée de l'Empire ottoman. Le 3 janvier 1919, accord signé par l'émir Faisal du Hedjaz et le docteur Chaim Wesman, représentant l'application de la déclaration de Balfour. En 1920, à la suite de cette déclaration à la conférence de San Remo, la Palestine est déclarée foyer national du peuple juif. En 1920, le docteur Chaim Weizmann est élu président de l'organisation sioniste. En 1920, la conférence de la paix qui s'est réunie à San Remo confirme les accords Sykes-Picot, réservant à la France les mandats sur le Liban et la Syrie, et à la Grande-Bretagne les mandats sur la Palestine, la Syrie du Sud et l'Irak. En 1922, indépendance de l'Égypte. La SDN confirme le mandat de la Grande-Bretagne, mais avec la division de la Palestine. Les Arabes se voient octroyer 80% de la Palestine. En 1923, première session du Sanhédrin après bien des siècles. De 1924 à 1939, quatrième vague d'immigration amenant des intellectuels, des représentants de carrières libérales qui jetteront les bases d'un gouvernement démocratique. En 1930, construction du Grand Hôtel, le King David à Jérusalem. En 1937, la commission Peel propose le partage de la Palestine à la suite de troubles récents. En 1939, publication du Livre blanc britannique prévoyant l'établissement d'un État palestinien indépendant dans un délai de 10 ans où les deux communautés juives et arabes se partageront le gouvernement. Ce livre limitait les possibilités d'achat de terres et l'immigration par les Juifs. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, cinquième vague d'immigration avec des Juifs de tous les milieux et de toutes professions. En 1945, signature du pacte de la Ligue arabe au Caire, qui en devient le siège. En 1946, la Transjordanie devient un royaume indépendant. En 1946, la résistance juive détruit le King David Hotel de Jérusalem, siège de l'état-major britannique. Une centaine d'officiers sont tués. En 1946, conférence de la Table ronde à Londres. Les pays arabes refusent l'établissement d'un État juif en Palestine. En 1947, le gouvernement britannique prend la décision d'abandonner son mandat alors qu'il entretenait une armée de 100 000 hommes en Palestine. Le problème de la Palestine est porté à l'ONU par la Grande-Bretagne. L'exodus est refoulé de Palestine par les Britanniques. L'URSS se prononce à l'ONU en faveur du plan de partage de la Palestine. En 1945, par 35 voix contre 16 et 10 abstentions, l'Assemblée générale des Nations unies adopte le plan de partage de la Palestine prévoyant la création d'un État juif et d'un État arabe. Jérusalem et Bethléem seraient internationalisées. Les Arabes refusent ce partage bien que Gaza leur fût attribué. C'est le début des hostilités. En 1947, il y a découvert des premiers manuscrits de la Mer Morte. En 1948, Ben Gourion devient premier ministre du gouvernement provisoire. La Haganah, force armée juive, s'empare de Haïfa, d'Acre et de Tibériade. Le 14 mai 1948, proclamation de l'État d'Israël avec la fin du mandat britannique. Invasion d'Israël par les armées arabes. Début d'une immigration massive. En 1949, la Grande-Bretagne et la France reconnaissent l'État d'Israël. Entrée d'Israël aux Nations Unies. Élection du premier président Chaim Weizmann, le premier million d'habitants en Israël. En 1950, adoption de la loi du retour par le Parlement israélien, confirmant le droit à tout juif à rentrer en Israël. Réunion de la Transjordanie avec la Cisjordanie, annexant ainsi la Palestine et formant la Jordanie. En 1956, Nasser nationalise la Compagnie universelle du canal de Suez. Intervention franco-britannique. Et riposte de l'armée d'Israël aux incursions égyptiennes. Israël détruit ses bases et occupe le Sinaï pendant 6 jours. L'ONU ordonne un cessez-le-feu immédiat. En 1957, Israël se retire du Sinaï et de la bande de Gaza. Premier bateau à Eilat. En 1967, la guerre des 6 jours. Victoire des Israéliens et réunification de Jérusalem. En 1973, guerre de Yom Kippour, attaque foudroyante des Égyptiens et des Syriens. En 1979, accord de paix de Camp David entre Israël et l'Égypte, signé à Washington. En 1980, le Parlement israélien proclame officiellement Jérusalem réunifiée, indivisible et capitale éternelle de l'État hébreu. En 1982, Israël rend la totalité du Sinaï à l'Égypte, mais occupe le sud du Liban. En 1990, sixième vague d'immigration juive venant de l'ex-Union soviétique, 1,5 million s'installe en Israël. De 2000 à 2003, première puis seconde intifada. Israël occupe le sud de Gaza. Lutte contre le terrorisme. Échec des négociations de paix avec Gaza et la Syrie. 6 millions d'habitants, 5e puissance nucléaire, 3e pays au monde qui dépose le plus grand nombre de brevets dans le domaine scientifique, médical et maîtrise de la haute technologie. Deuxième partie, la reconstruction du Temple, Jérusalem. L'accomplissement des prophéties et leur signification. Daniel 9, versets 23 à 27. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il est manifeste que les francs-maçons ont poussé à la renaissance de l'État hébreu pour accélérer et même mettre en route l'accomplissement des prophéties, afin, si possible, de détourner l'issue finale de ces prophéties pour les mettre au profit de la venue de l'Antéchrist. Le diable sait que son temps est court, aussi use-t-il de tous les moyens, même des prophéties, en agissant derrière de puissantes sectes occultes et secrètes pour accélérer les événements et les manipuler à son compte. C'est pourquoi la réalisation de certaines prophéties, la naissance de l'État hébreu, la construction du temple, est toujours liée à l'esprit d'Abel, c'est-à-dire les adorateurs qui attendent la rédemption, mais bien souvent mêlée aussi à l'esprit de Caïn, qui est religieux et manipulateur. C'est grâce à Salomon, guidé par l'Esprit de Dieu, que le premier temple fut construit. Cependant, l'esprit de Caïn y était mêlé, car Salomon a fait venir Hiram du pays des Phéniciens pour sa construction. Or, les francs-maçons considèrent Hiram comme le premier d'entre eux. Reconstruire le temple d'Hiram reste leur objectif inavoué, car le but est de rassembler toute l'humanité autour d'une religion universelle fondée sur l'homme au nom de la paix et de la sécurité. Pour le rituel maçonnique des disciples d'Hiram, qui comprend 33 degrés, mais qui reste toutefois incomplet, seul l'accès au Saint des Saints dans le temple de Jérusalem doit parachever le rituel et permettre de manifester la perfection humaine. Pour nous qui connaissons les prophéties, comme pour les hommes de l'anti-Église qui s'en inspirent, cette perfection humaine porte un nom, l'Antéchrist. Derrière Hiram se cache l'esprit de Caïn. Rappelons-nous qu'après avoir tué son frère Abel, Caïn, se sachant condamné à errer le restant de sa vie loin de Dieu, réagit à cette condamnation en bâtissant des villes. Il fut donc à la fois le premier bâtisseur et le premier fondateur des cités humaines. Toute ville est la tentative de l'homme déchu de trouver d'une part sa sécurité dans la cité et d'autre part de redonner à sa vie un sens en devenant bâtisseur pour se faire un nom, loin de la colère de Dieu. La reconstruction du temple interpelle autant les Juifs, les chrétiens et même le monde entier. Mais pour les judéo-chrétiens, ce programme ressemble fort à un piège. Bien que nous ne puissions empêcher la révélation de l'apostasie, où nous verrons l'Antéchrist entrer dans le Saint des Saints, sachons analyser les temps prophétiques et investir le temps qui nous reste pour nous séparer de l'esprit de Babylone et être prêts pour la plus grande moisson des âmes. Ne cessons pas de nous réjouir, car le monde va connaître sa plus grande délivrance dans le retour de Jésus, revêtu de toute sa gloire, et nous régnerons avec lui. Fin du cours. Questions sur le cours. Première question. Donnez les trois étapes de la restauration d'Israël sur sa terre avant le retour du Seigneur. Expliquez ce processus avec des versets bibliques. Deuxième question. Dans le cours, par rapport aux dates écrites ramenant les Juifs sur leur terre, quelles sont les dates clés les plus importantes? Parmi ces dates, deux sont capitales et portent un message prophétique avant le retour de Jésus. Trouvez ces deux dates et expliquez le message de Dieu. Troisième question. Pourquoi le peuple juif revient-il sur sa terre en Israël et pourquoi veut-il reconstruire le temple à Jérusalem? Pourquoi les Juifs sont-ils aveuglés concernant le vrai Messie et feront alliance avec l'Antichrist? Quatrième question. En réalité, quel est le véritable temple du Seigneur? Expliquez la dimension du temple de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament avec des versets bibliques.